Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et les podcasts Conflits ont aussi été primés par plusieurs labels qui les ont classés parmi les principaux podcasts en France ou dans le domaine de la géopolitique. Je remercie les auteurs qui viennent chaque semaine à notre micro pour présenter leurs thèmes de recherche, pour présenter leurs ouvrages, et nous essayons d'avoir les sujets les plus variés possibles. Et puis, vous le savez, parce qu'on entend beaucoup parler, il y a l'inflation de tous les produits, et y compris du papier, ce qui pose des problèmes aux éditeurs de livres ou de revues. Grâce au fait que les abonnements de Conflits sont en augmentation croissante, nous n'augmentons pas les prix de Conflits. Donc Conflits est probablement la seule revue en France dont les prix n'augmentent pas. Mais si vous n'êtes pas encore abonné et si vous voulez nous soutenir, eh bien vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de vous proposer notamment ces contenus en accès libre et puis d'accéder aussi au site internet avec les articles réservés aux abonnés et tous les deux mois à notre revue, dont d'ailleurs le dossier actuel est consacré au Royaume-Uni. Alors, nous allons parler cette semaine de la géopolitique du sport. Vous me direz cette saison, puisqu'il y a la Coupe du Monde de football, certes, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, et puis également la Coupe du Monde de rugby, beaucoup d'autres choses. Et finalement, le sport qui était parfois un petit peu dénigré, regardé de manière un petit peu hautaine, eh bien, s'est imposé au cours des dernières années comme un thème sérieux et tout à fait important de la géopolitique. Et pour en parler, je reçois cette semaine Jean-Baptiste Guégan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur dans le supérieur et également auteur de différents ouvrages, dont une géopolitique du sport, une autre explication du monde qui est parue chez Brial Studirama. C'est d'ailleurs la deuxième édition et un autre ouvrage alors qui sera soit en parution, soit qui sera paru au moment où l'émission sera diffusée, mais qui là sera un atlas.
Voilà, un atlas géopolitique du sport, coécrit avec Lucas Aubin, spécialiste de la Russie et du sport russe, et qui va sortir chez Autrement.
Alors, il y a beaucoup à dire sur la géopolitique du sport, et je voulais commencer par un sujet qui me tient à cœur, parce que à Conflits, nous essayons de montrer que la géopolitique, ce n'est pas que l'étude des conflits, en dépit du titre de notre revue, ce n'est pas que la guerre, mais c'est aussi ce qu'on appelle la géopolitique locale, la géopolitique des villes. Et nous sommes probablement très nombreux à être passés par des associations sportives. Et je dois dire que j'ai chaque année, au mois de septembre, une pensée émue pour tous les bénévoles qui s'engagent dans des associations, football, rugby, natation, que sais-je, judo, enfin, c'est innombrable. Et ça contribue dans les grandes villes, dans les métropoles, dans les villages, à créer un véritable tissu social, humain, à permettre à des jeunes d'avoir une activité sportive, d'avoir une activité sociale. Et ça, c'est une richesse importante, à une, on va dire, une géopolitique locale, mais de création d'un tissu humain qui est majeur et dont on ne prend pas forcément toujours compte de la richesse. Or, très souvent, ils sont parfois les principaux éducateurs, voire même peut-être les seuls éducateurs quand il y a des familles un peu déstructurées ou compliquées ou que l'école va un peu à volo. Et ça, c'est un rôle important aussi du sport.
Alors effectivement, le rôle du sport est de plus en plus structurant, a fortiori quand les services de l'État reculent et que les situations s'avèrent de plus en plus complexes sur certains territoires. Le sport est par essence géopolitique et c'est encore plus vrai à l'échelle locale. Parce que d'abord, il crée des représentations communes, on soutient le club de son quartier, on aide quelque part. On crée aussi du lien comme ça, et si la géopolitique, c'est aussi l'étude des conflits, c'est aussi l'étude des rivalités, des relations, pas forcément que des tensions. Donc là, on sort de l'approche lacostienne, et le sport, vraiment, va permettre ça. Il permet littéralement d'ancrer des sociétés sur un territoire, de leur permettre de construire des représentations. Et puis là, si on voit vraiment du côté vertueux, il crée des liens, là où finalement les autres institutions sont soit absentes, soit en déprise, soit clairement en situation de départ, et il permet de créer de la cohésion sociale. Alors à l'échelle des États, on parle littéralement de d'unité nationale, hein. À l'échelle des territoires, c'est encore plus vrai. Aujourd'hui, à l'exception des services d'urgence, de la police, quand elle peut encore intervenir, les seules institutions qui restent, les institutions sportives, et elle constitue finalement l'un des derniers réseaux qui permet de mettre en relation des gens d'origines diverses, de formations diverses, et surtout des gens qui n'ont pas forcément le même parcours ni les mêmes chances dans la vie. Et ça, c'est rare. On parlait finalement en antenne du rugby tout à l'heure. On pourrait parler du foot, mais ce sont des sports collectifs qui vont littéralement construire l'identité de territoire et permettre à ceux qui pratiquent d'abord d'avoir accès à un cadre éducatif, à des formateurs. Et je suis complètement d'accord, le bénévolat finalement n'est pas assez reconnu au regard de l'utilité sociale et politique du sport.
C'est vrai qu'il y a une dimension d'identité territoriale, ne serait-ce que par le port du maillot. On le voit aussi d'ailleurs dans les écoles, les enfants s'identifient à un club, à un héros avec le maillot floqué Mbappé ou autre. Donc ça, ça marque l'espace aussi.
Exactement, c'est-à-dire que dans l'espace, le meilleur moyen de se l'approprier littéralement, c'est de porter les couleurs du lieu. On est parisien parce qu'on porte le maillot. Le meilleur exemple de ça, c'est dans les anciennes villes industrielles ou dans les villes où il y a eu des problèmes liés justement à cette déprise industrielle. Vous prenez Marseille, vous prenez Saint-Etienne, vous prenez Lens. Vous prenez Lille dans une moindre mesure, vous avez une vraie identité nationale, enfin une vraie identité locale, et elle est construite autour du club, parce que le club va porter ces valeurs-là. Vous allez à Bollard, par exemple, à Lens, le premier chant que vous entendez, c'est les corons. Alors c'est Pierre Bachelet, pendant longtemps ça a fait rire, et puis aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une fierté locale qui est entretenue par le sport. Ça peut être du sport professionnel de très haut niveau, avec des intérêts commerciaux et marketing derrière. Vous avez quand même un stade qui est entièrement rempli, avec des gens qui s'identifient à ces couleurs-là, et qui donc prennent conscience finalement d'appartenir à un ensemble commun par le sport, et notamment à l'échelle locale. Quand on est Marseillais, ou quand on arrive à Marseille, on est nécessairement en rapport, qu'on aime ou pas le sport, avec l'Olympique de Marseille. À Paris, c'est un peu moins vrai, parce que le PSG est devenu finalement une entreprise de spectacle, comme une autre. C'est un supporter du PSG qui en parle, mais on est face finalement à un phénomène qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment le sport qui permet cette identification finalement au tissu local.
Ce qui est intéressant à Marseille, c'est la localisation du stade. C'est-à-dire que le stade, le Vélodrome, est quasiment dans le centre-ville. À Toulon, le stade de rugby est sur le port. Donc
c'est ça.
Il y a aussi cette identification spatiale-là par la présence du stade.
Ah, si on prend Mayol, par exemple, à Toulon, c'est d'autant plus vrai que quand vous devez traverser la ville, vous passez littéralement sous le stade. Et le stade est un vrai élément d'identification. Alors là, il a connu de belles heures sportives avec finalement l'arrivée, puis ensuite le départ de Boudjelal. Il y a eu un vrai essor pour connaître aussi finalement le fonctionnement du club. Il a joué énormément sur la perception positive de Toulon à l'extérieur. Il a redonné une fierté à Toulon qui était souvent vue comme une ville compliquée ou entièrement liée finalement à sa rade. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et puis voir aussi de grands joueurs, je pense à Wilkinson ou à tous les Néo-Zélandais qui sont venus jouer sous maillot du RCT, les voir jouer et porter le maillot, ça a rendu une fierté aux Toulonnais qui n'avaient plus forcément ce même rapport-là. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part si vous faites partie finalement d'une ville mondiale, vous avez tendance souvent à être regardé comme un centre de seconde zone, voire un endroit périphérique. Le sport va permettre justement à des cités qui n'ont pas le même rayonnement que des capitales d'avoir une importance, de peser aussi en titillant, en réveillant et en dynamisant ce sentiment d'appartenance finalement au territoire. Et le stade, c'est le premier marqueur, c'est l'endroit où on va. C'est finalement, je ne vais pas dire que c'est le premier moment de partage quand votre père ou la famille vous emmène. La première fois qu'on entre dans le stade, moi je me souviens de mon entrée au Parc des Princes, mais c'est pareil à Mayol, c'est pareil ailleurs. C'est un moment qui vous identifie au lieu. Et à partir du moment où vous êtes là, vous êtes parisien, vous êtes rentré dedans, vous êtes scotché, vous êtes accroché, ça ne part plus.
Vous évoquiez ces villes qui ont une fierté par le sport. Je pense à Auxerre, des années Giroud. Tout le monde connaissait Auxerre. C'était un petit peu la capitale de la France, notamment quand il y a eu ce fameux match contre le Borussia Dortmund. Enfin, Auxerre, qui est une ville un peu oubliée ou un peu en dépression, le football et Giroud, qui était une figure un peu tutélaire, lui a donné une dimension nationale qu'elle n'avait pas.
Alors, il y avait cette dimension nationale, c'est-à-dire qu'il a fait énormément, par exemple, pour le développement international du Chablis. Chaque match de Coupe d'Europe était associé finalement, il faisait la promotion, on parlerait de place branding si on utilisait finalement l'anglicisme de rigueur, ils faisaient la promotion des produits locaux, Chablis, etc. Notamment pour les autres étrangers de marque, je pense à Dortmund, mais à tous les clubs qui se sont succédés, ils les emmenaient systématiquement dans les restaurants étoilés autour. Et ce qui est assez intéressant avec Auxerre, c'est qu'on a vu au moment où sportivement le club s'est effondré et est descendu en D2, en deuxième division, on a vu l'impact sur le centre-ville. La majeure partie des commerces de bouche et des commerces de standing ont fermé, puisqu'il y avait moins de gens qui venaient, les footballeurs étaient moins payés et partaient, et donc on a vu littéralement, économiquement, le centre-ville finalement se racornir, parce que l'activité économique a ralenti du fait de l'absence de performance sportive. Et si on va même plus loin, là on le voit aujourd'hui à Auxerre, le centre-ville est redynamisé, alors ça peut paraître fou hein, quand on y pense, hein, par le retour en première division d'Auxerre. On a des gens qui viennent de Paris pour aller voir les matchs à Auxerre. Les tribunes sont quasi pleines. Ça redynamise le centre-ville les jours de match et ça rend finalement sa fierté à la ville. Et ce qui est encore plus fou, c'est que aujourd'hui, on voit que le premier employeur de la ville est celui qui va avoir le plus d'impact à l'extérieur sur la visibilité du territoire et son attractivité, c'est un club de foot.
Quand on regarde la liste des clubs de première division en football, il me semble une représentation de la Bretagne. Il y a Guingamp, il y a Rennes, Brest, il y en a un autre, j'ai oublié le nom. Enfin, en tout cas, on voit que la Bretagne, c'est la région du foot.
Alors, si on prend la Bretagne et qu'on la compare à l'Île-de-France, on est sur deux des plus grandes terres de foot de France. C'est pour ça qu'on a énormément de clubs en Bretagne. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a d'abord énormément de joueurs, énormément de centres de formation, énormément de clubs ancrés et bien gérés. C'est-à-dire qu'il y a une manière de gérer le foot en Bretagne qui est complètement différente des clubs relativement dispendieux du sud de la France, qui ont souvent été mêlés à des affaires, ou d'une pratique qui était très liée au paternalisme finalement industriel qu'on a pu voir ailleurs et qui dépend donc de l'entreprise, je pense à Saint-Etienne. En Bretagne, il y a toujours d'abord un lien très fort aux politiques en place, on va au foot et on sait que ça sert le politique. Et il y a eu une vraie, on le voit avec Noël Le Graët par exemple à Guingamp. Guingamp est une anomalie sportive pendant très longtemps, ça a été un club de première division. Et Guingamp, son maire c'était Noël Le Graët, il est passé par la Ligue de football professionnel, il était à la tête donc, du football professionnel français, maintenant il est à la tête de la Fédération française de football. Et il représente finalement ce que c'est aussi que ce foot breton, c'est-à-dire des industriels, lui en l'occurrence il est de l'agroalimentaire, qui ont réussi à construire un club et qui ont été en même temps maire de la ville. Et donc vous avez ici un mélange des genres qui peut être compliqué parfois à gérer parce qu'il pose quelques soucis, et puis qui peut aussi expliquer pourquoi il y a un tel dynamisme. Vous avez des joueurs, un vrai potentiel, vous avez des clubs structurés, un financement possible, le soutien du politique, tout ça fonctionne.
Une France du foot, une France du rugby, c'est encore valable comme dichotomie, comme frontière ?
Alors, en tout cas, en termes de culture, oui. En termes de performance, si on accepte les mauvaises performances du Racing et du Stade français, on a encore cette division, c'est-à-dire que le rugby, c'est plutôt sous la Loire, en tout cas au sud de la Loire, et le foot serait un peu plus disséminé sur le territoire. On serait sur un football qui est plus lié aux métropoles, mais c'est de moins en moins vrai, parce que quand on regarde par exemple le centre de formation de Massy, quand on regarde aussi ce qu'a fait pendant très longtemps le lycée La Canale, vous avez aujourd'hui un espace francilien qui est vraiment capté par les clubs de rugby, parce que vous avez des gabarits, vous avez des potentiels athlétiques, vous avez des joueurs potentiels, et puis il suffit de voir la culture du rugby à Paris. On commence à voir la même chose dans le nord de la France. À terme, le rugby va connaître le même destin finalement que le foot. Il va d'abord être dans les métropoles, parce qu'il faut des infrastructures, il faut des stades. Ça manque peut-être un petit peu de culture. On le voit avec le Stade français, on a du mal à repartir, le Racing aussi. Il n'y a pas cet engouement qu'on peut avoir, par exemple, quand on va à Bayonne, à Biarritz, ou quand on voit les Biarrois remonter et littéralement témoigner de leur enthousiasme. Il y a quelque chose. C'était vrai il y a 20 ans, c'est un peu moins vrai maintenant. À terme, la professionnalisation du rugby va aussi niveler, finalement, ce côté très, très terroir. Maintenant, si on sort du rugby professionnel, cette existence-là, elle est sans commune mesure. Il y a vraiment une prédominance du rugby dans le sud-ouest, ça c'est une évidence. C'est un peu moins vrai dans le sud-est, le foot étant un vrai concurrent de poids.
On parle souvent de sport mondialisé. Pourtant, lorsqu'on regarde, je prends le football par exemple, les principaux pays du football sont toujours les mêmes. Et c'est essentiellement des pays européens. Il y a le Brésil et l'Argentine, bien évidemment. Mais c'est finalement pas si mondialisé que ça. Le top 10 des meilleurs pays. Ça n'a pas trop changé depuis 50 ans.
Alors, il y a une hiérarchie historique. C'est Amérique du Sud et donc Uruguay, Argentine, Brésil, et puis de l'autre côté l'Europe. Ça, c'est vrai que c'est un des rares, comment dire, c'est une des rares structures qui perdure dans le sport mondial. L'Amérique du Nord est vraiment absente de ça. L'Afrique a toujours pas été capable de performer. Et là, on voit un lien aussi avec le développement. C'est-à-dire que on se rend compte que il faut allier à la fois la puissance économique, une capacité à structurer sa jeunesse, là on est vraiment dans la logique de la puissance, hein. Tirer profit des gens qui sont sur votre territoire, les former, les éduquer, etc. Et puis, la culture. Et ça, c'est par exemple ce qui manque en Amérique du Nord. Quand vous regardez aujourd'hui en Amérique du Nord, je pense notamment aux États-Unis, c'est encore plus vrai au Canada maintenant, le premier sport pratiqué par les jeunes, filles et garçons compris, c'est le football. Donc le soccer, quoi. Et ils font appel à des formateurs étrangers. Mais ça prend pas. Ça prend pas parce que leur culture reste une culture universitaire nord-américaine. Et par exemple, un footballeur professionnel aux États-Unis ne va commencer sa carrière qu'après la fac. Donc il a 23-24 ans. Or, en France, par exemple, il a déjà commencé sa carrière à 16 ans.
Il a mis de carrière à 24 ans.
Exactement.
En équipe de France, on n'est rien.
Voilà. Et ça pose le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils ne se confrontent au haut niveau que 5 à 6 ans plus tard. Donc ils sont en train de s'adapter. Là, ça change. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le football canadien est performant. Pour l'Afrique. Alors qu'on devrait être sur le continent qui devrait dominer, hein, il suffit de regarder finalement ce qui se passe dans les centres de formation français. Aujourd'hui, c'est un problème qui est lié à la stabilité politique. Ça, c'est l'autre facteur. C'est-à-dire que si vous voulez performer en sport, la première condition, c'est la stabilité politique de votre pays. Et force est de constater qu'en Afrique, c'est loin d'être le cas. Et les seuls pays qui performent, en tout cas qui arrivent à performer sur le long terme, c'est des pays qui connaissent cette stabilité, je pense notamment au Maroc, et puis vous avez des États qui brillent par leur capacité à être à présenter une sinusoïde, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte, puis vous en avez d'autres qui devraient performer mais qui sont complètement fragilisés, qui sont effondrés en 10 ans, c'est le Cameroun, avec ses problèmes frontaliers, ses problèmes internes, le Nigeria, qui devrait être capable sportivement d'avoir une équipe qui soit au niveau de sa puissance économique, qui c'est pas du tout le cas. Là, ils sont en train de se réformer. Ils ont lancé un plan de réforme il y a quelques semaines. Ils vont complètement repenser le football nigérien, justement pour ça. Et aujourd'hui, l'autre exemple, c'est la Chine. La Chine essaie, à marche forcée, de développer un football capable de performer. Ils arriveront probablement à organiser une Coupe du Monde dans les années 2030. Reste à la gagner. C'est l'horizon qu'a fixé Xi Jinping, c'est-à-dire 2049. Le moment du centenaire de la République populaire de Chine. Vont-ils y arriver? C'est possible, c'est pas improbable, mais pour l'instant, il leur manque vraiment ça. Il leur manque une culture et une capacité à intégrer cette culture. Il n'y a pas de football de rue, par exemple, en Chine. Et ça, c'est un vrai souci.
Il y a un sport qui est très curieux à ce titre-là, c'est la Formule 1, où c'est l'impression que c'est l'argent qui domine, ou les intérêts qui dominent, avec notamment, on est en train de voir dans le choix des circuits, des circuits qui sont de moins en moins européens, alors que les écuries et les coureurs, eux, sont européens. Et donc, d'ailleurs, ça faisait débat dans le monde de la F1 en disant « mais on est en train de se quitter de nos aficionados pour aller au plus offrant. » Alors, ça va être Bakou, c'est Istanbul ou d'autres. Donc, vous payez, vous avez le circuit, et tant pis pour les fans ou tant pis pour les grands constructeurs.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis que la F1 a été reprise par Liberty Media, on voit justement cette tentation d'abord vers l'Asie, ensuite massivement vers le Golfe, avec l'Arabie Saoudite qui a obtenu son Grand Prix, le Qatar qui va l'obtenir, les Émirats, le Grand Prix de Bahreïn qui a été un des premiers, les États-Unis qui, là, pour la prochaine saison, vont avoir 3 Grands Prix. Il va y avoir Miami, Las Vegas et Indianapolis. On est sur quelque chose qui correspond d'abord à la nouvelle carte du monde automobile. Et puis, pour les pays du Golfe, c'est assez particulier parce que s'ils investissent autant, c'est d'abord pour développer leur réputation internationale. Donc là, on est dans du nation branding typique, c'est-à-dire je montre ce que je suis par la Formule 1. C'est par exemple le projet Qiddiya pour l'Arabie Saoudite. Mais c'est aussi la volonté de d'abord favoriser un lien direct entre la jeunesse et le pouvoir en place. C'est-à-dire que si vous prenez le golf, l'un des loisirs préférés de la jeunesse, c'est d'aller faire des drifts, donc d'aller faire littéralement glisser votre voiture, etc., ou faire des courses sur les finalement sur les autoroutes qui sont tirées au cordeau au milieu du désert. Et il y a une vraie appétence des jeux de la jeunesse locale. C'est un élément de stabilité politique. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas. Et puis, ça valorise surtout la première source de richesse de ces États. C'est-à-dire que si vous montrez l'automobile, bah, vous êtes littéralement en bout de chaîne. C'est que derrière, l'automobile ne roule que parce que vous avez à la fois une industrie pétrolière et la capacité à valoriser ça. Et c'est aussi pour ça qu'ils investissent. C'est-à-dire que c'est la traduction directe, finalement, des retombées du pétrole, mais cette fois en loisirs, etc.
Est-ce qu'on pourrait parler de sport délocalisé, mais au sens où le lieu n'aurait plus d'importance? Ce qui compte, c'est les droits télé, et ça, on peut regarder n'importe où dans le monde.
Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de pays qui avaient une culture, une histoire, et puis finalement qui s'inscrivaient dans des continuités. Aujourd'hui, le plus offrant gagne, on l'a vu avec le Qatar, ce qui n'était pas naturellement un pays de football, même si on aime le football là-bas. C'est un pays qui l'obtient parce que la FIFA est faible, fragile, et qu'elle est corruptible. Et on l'a vu, hein, ça a donné le scandale de la FIFA. On a d'autres pays aussi qui vont pouvoir y prétendre. Et aujourd'hui, celui qui est capable de financer l'événement a plus de chances de l'organiser. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de conditionner l'organisation des grands événements sportifs au respect des droits humains, la question écologique, parce que aujourd'hui elle se pose, et puis aussi, bêtement, à voir si le pays ne va pas s'en servir. Regardons la Russie, regardons l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs dans le domaine, et qui capte un nombre d'événements absolument incroyables en surpayant. Donc aujourd'hui, c'est un vrai souci. Est-ce qu'on a encore la possibilité, par exemple en Europe, d'accueillir des Coupes du Monde? Oui. Est-ce que sur d'autres événements, on est déjà dépassé? On en a parlé avec la F1, c'est le cas.
Il y a, si on est dans le sport automobile, les 24 heures du Mans, c'est curieux aussi. Dans les années 1950-60, un événement très populaire, avec une culture autour. Alors, Michel Vaillant en est un des exemples, mais il y avait une vraie culture populaire. Et aujourd'hui, ça reste important pour la région de la Sarthe et du Mans, mais on a l'impression que les Français s'en détournent, voire s'en moquent complètement. Et c'est plutôt... Enfin, c'est fait au Mans, mais plutôt pour l'extérieur.
Alors, c'est assez vrai. J'étais au Mans la semaine dernière. J'ai visité le circuit. Et justement, je discutais avec ceux qui étaient en train de préparer la prochaine édition. Et il y a moins de Français, mais il y a beaucoup plus d'Européens. Il y a beaucoup plus aussi de VIP. C'est-à-dire qu'il y a un petit aérodrome qui se transforme littéralement en aéroport international au moment des 24 heures. Et c'est devenu un événement, finalement, presque... Alors, non pas coupé complètement du territoire, parce que il y a... plus d'une centaine de milliers de personnes qui viennent sur le site, plus de 300 000 sur la journée, en comptant ceux qui dorment, et en tout, ça mobilise quasiment 1 million de personnes sur le territoire, ce qui est gigantesque, c'est-à-dire que ça en fait l'un des premiers événements sportifs français. Mais c'est vrai que de plus en plus, parce que l'automobile ne fait pas recette, parce que l'événement suppose que vous y restiez 24 heures, on a beaucoup plus d'Européens. On a beaucoup plus aussi de gens qui viennent faire finalement, qui viennent vivre l'expérience du Mans. Si vous avez jamais vécu ça, c'est arriver, voir le départ, voir la nuit tomber, rester sur le circuit, vous faire réveiller aux aurores par les bruits de moteur, par les odeurs qui les accompagnent, qui sont typiques. Et puis c'est vraiment une fête. Mais c'est vrai qu'on a une internationalisation de la clientèle, une internationalisation aussi de ceux qui participent. Et on est face à une de ces évolutions, hein. Aujourd'hui, les 24 heures du Mans s'inscrivent dans un championnat du monde, finalement, d'endurance. Et c'est une manifestation presque, je vais pas dire déterritorialisée, bien au contraire, mais qui s'est considérablement globalisée pour ça.
Il y a un cas particulier aussi, c'est le Tour de France, où là, pour le coup, c'est lié à un véritable terroir, puisqu'on regarde le Tour de France essentiellement pour les images, même si la course est importante, mais c'est aussi une image donnée à l'étranger. Alors ça fait... plusieurs décennies qu'aucun Français n'a gagné. Malgré tout, ils animent quand même la course. Mais pourtant, ça reste un sport extrêmement populaire, y compris en France.
Alors, ce qui est assez fabuleux avec le Tour de France, c'est que finalement, personne ne le voit dans sa globalité, sauf à regarder la télé. Et la moitié des images qui sont proposées par les diffuseurs sont des images qui sont effectivement liées au patrimoine et qui sont regardées à l'étranger, non pas pour la course, qui est plutôt anecdotique et qui, en général, résume à la dernière demi-heure, mais pour voir les paysages de France se dérouler, etc. C'est la meilleure promotion pour le pays. et ça fonctionne. Ça reste un sport extrêmement populaire parce que les gens savent les efforts qu'il faut pour être sur un vélo et être capable de monter. Finalement, d'école ou même simplement rouler à une vitesse assez sidérante. Pourquoi ça touche autant? Parce que je pense qu'il y a encore ce rapport direct au vélo. On le voit dans nos villes là, avec le développement parfois anarchique et peu contrôlé des pistes, etc. Mais il y a encore ça. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on reste toujours sur une image très, très dégradée du cyclisme. Là où finalement, ils ont simplement professionnalisé les choses. Et on le voit avec finalement l'engouement européen, parce que tout le monde vient sur le Tour. Et c'est un vrai événement populaire. C'est pas que la course, c'est la caravane publicitaire, c'est ce qui se passe après, c'est tout le folklore qui est autour. Et puis, on a tous un souvenir de ça. C'est pas pour rien que ça se passe l'été. C'est parce qu'il fallait nourrir à ce moment-là les pages de l'autojournal. On a créé littéralement l'événement pour ça. Il fallait être capable donc, de nourrir 3 semaines. C'est pour ça que ça dure 3 semaines. Et il fallait aussi être capable d'aller toucher au cœur des gens. À l'époque où, avec la boxe, le cyclisme était dominant. Et en l'occurrence, ça marche encore. Et ce qui est même surprenant, c'est que ça marche même de mieux en mieux et de plus en plus. Il n'y a jamais eu autant de gens sur les bords des routes. Alors que c'est décrié, qu'on parle de dopage tout le temps et qu'il n'y a pas de Français qui gagnent.
Et ça crée des lieux mythiques aussi, le Tourmalet, le Mont Ventoux. Enfin, même si on n'est pas passé par le vélo, on regarde différemment parce qu'il y a le Tour de France. Donc, il y a la planche des belles filles qui est maintenant un lieu mythique des dernières années. Mais le Tour de France est dans le territoire et crée du territoire ou crée des lieux majeurs.
J'aime bien l'expression créer du territoire et créer des lieux majeurs. Si on a tendance à dire qu'on apprend la géographie avec les clubs de foot ou les clubs de rugby lorsqu'ils jouent les Coupes d'Europe, avec le Tour de France, on connaît sa géographie et surtout on découvre des endroits dans lesquels finalement on n'imaginait pas de telles splendeurs. Et il y a des choses qui s'inscrivent dans l'inconscient collectif, c'est la planche des belles filles par exemple, qui crée littéralement du lieu et presque de la mythologie. On le voit par exemple je travaille avec un éditeur qui a sorti les ouvrages justement du Tour de France et l'une de ses plus grosses ventes c'est justement la présentation de ces lieux mythiques et les gens se ruent dessus, notamment les cyclotouristes pour refaire le parcours, donc il y a des cartes et vous avez des gens qui vont en pèlerinage littéralement refaire le parcours de ceux qui ont souffert sur la bicyclette et on a une vraie appropriation de ces espaces qui sont finalement des non-lieux, parce qu'on reste sur des routes, quoi. C'est un peu comme les ronds-points. On y reste, on s'y ancre, on regarde, on se prend en photo devant. Il suffit de voir, par exemple, le nombre de personnes qui, avec un vélo, se prennent en photo au sommet du Mont Ventoux. Et ça, il y a très peu d'événements qui permettent justement d'avoir une telle emprise et un tel effet sur la représentation générale du territoire.
Le sport ou le football en particulier a aussi une force dire, de génération. C'est souvent on est initié par les parents et puis chacun a ses grands joueurs mythiques de sa génération de quand il était jeune et c'est important aussi cet élément de transmission même le fait d'aller au stade. On garde le lieu en mémoire donc il y a une mémoire des lieux, une mémoire aussi des moments où on y a été.
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on étudie de plus en plus en histoire, mais qu'on voit clairement. Il y a un phénomène d'identification et un phénomène qui participe à la fois de l'identité collective et de l'identité personnelle. Tout le monde se souvient, par exemple, du premier match qu'il a vécu avec ses parents lorsqu'il est allé la première fois au stade, quel que soit le sport. C'est encore plus vrai avec le rugby et le foot parce que vous avez la découverte d'une enceinte littéralement dédiée. Vous avez cette ambiance particulière. Je l'ai encore constaté là quand j'étais au parc pour le match contre Brest. Il y avait un gamin, c'était son premier match, et il arrive, et là, il monte, et il voit la pelouse, et là, il est comme ça. Fait littéralement sidération. Il s'en souviendra toute sa vie. Ce phénomène-là, ça crée justement du lien, de la cohésion, ça ancre finalement dans l'individu ce moment avec les parents, ou avec celui qui l'emmène, ça peut être l'oncle, etc. Ça crée aussi du collectif, on le voit avec les supporters, et notamment les ultras. Vous avez la construction d'un phénomène du groupe, on est d'une partie de la tribune, et c'est pour ça que le stade est éminemment géopolitique. On n'accepte pas que quelqu'un d'autre appartenant à notre club vienne avec ses propres couleurs sur son territoire. On partage cet espace, cette place pour laquelle vous avez un abonnement, c'est la vôtre. Vous êtes d'Auteuil, vous êtes de Boulogne, vous êtes de la tribune Paris, vous êtes finalement d'un autre stade, et ça c'est assez fabuleux. Et puis il y a le rituel collectif, il y a les chants, il y a la capacité finalement à avoir la même histoire partagée, l'histoire du club. Moi, j'ai écrit une histoire populaire du PSG aussi pour ça. On a vu 50 ans de supporterisme et on a essayé de reconstruire l'histoire du club au travers des voix des supporters. Et ils ont tous les mêmes événements, enfin les mêmes événements qui reviennent en mémoire. La montée du club en première division, le risque de le voir descendre en deuxième division, les matchs mythiques pour ceux qui y étaient ou ceux qui les ont regardés, le chambrage systématique pendant 10 ans, le traumatisme du changement d'actionnaire, le rachat par le Qatar avec un club qui change et puis qui n'est plus votre club. C'est-à-dire, la question c'est, il y a encore les mêmes couleurs, il y a encore le même nom, mais est-ce que ça correspond à votre identité ? Toutes ces questions-là, c'est typiquement lié au foot, c'est encore plus vrai au rugby, hein. On l'a vu avec le RCT, on l'a vu avec le rachat du Racing ou du Stade français.
Il y a aussi des chants qui se transmettent, les couleurs, les drapeaux, les maillots. Enfin, les maillots changent d'ailleurs, mais enfin, voilà. Les couleurs restent les mêmes. Donc, il y a aussi ce phénomène d'identification et de transmission par ce biais-là.
Exactement, c'est-à-dire que l'identification et la transmission, elles se font par les couleurs. Et finalement, l'expression qu'on utilise aux États-Unis quand on parle... De nation Lakers, par exemple, pour parler des clubs, ou de la nation des Celtics, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'expression en France, mais finalement, ça fait presque nation. Vous avez un territoire, vous avez des identités, des couleurs qui sont communément admises, partagées et défendues. Vous avez un hymne, vous avez une histoire partagée, reconnue. On a finalement l'envie aussi d'être ensemble. Vous avez quasiment toutes les caractéristiques de la nation dans le foot. Dans le sport, et notamment dans le sport collectif. Ça vaut pour le rugby, c'est un peu moins vrai pour le hand, mais ça peut se défendre aussi. Et c'est aussi pour ça que les équipes nationales sont autant porteuses, finalement, d'identification. C'est pour ça que vous avez, par exemple, quand la France gagne un titre, des millions de personnes qui descendent dans la rue. Parce que derrière, vous avez l'impression que c'est votre pays et donc finalement une part de vous-même qui est gagnée. Alors vous êtes juste devant la télé.
C'est aussi un peu militaire, non ? C'est une forme de guerre.
Ouais. Tout à fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que le seul moment dans votre vie où vous allez vous mettre debout, vous allez chanter la Marseillaise, vous allez la regarder en ayant porté les couleurs, c'est-à-dire en les ayant littéralement sur vous. Soit vous faites partie d'une arme, voilà. Soit vous êtes dans un engagement politique, soit vous êtes au stade. Et le seul moment où c'est accepté de manière entièrement consensuelle, c'est dans le cadre du sport. C'est-à-dire le seul moment où vous allez avoir la nation rassemblée, avec la main sur le cœur, à chanter à plein poumon l'hymne, c'est dans un stade, et tout le monde trouve ça normal. Ce qui est très drôle, c'est de voir la comparaison ailleurs. Par exemple, en Allemagne, il a fallu attendre la Coupe du Monde 2006 pour que les Allemands acceptent de ressortir le drapeau et soient fiers de leur drapeau, parce qu'avant, ça renvoyait à l'idée nationaliste et donc à leur passé. Et ils l'ont vraiment accepté. Et aujourd'hui, on retrouve ça dans les stades. Mais pendant très longtemps, ils se sont passés du drapeau. Le moment où on voit, nous, des drapeaux tricolores partout et être communément acceptés, quelle que soit votre appartenance politique, c'est dans les stades. Et après, oui, c'est aussi un substitut de la guerre. C'est-à-dire que si vous voulez montrer votre supériorité en tant que pays par rapport à un autre, vous vous affrontez sur le terrain. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mort et qu'on peut... Enfin, à part quand on a des Français Algérie qui partent à volo, le reste fonctionne assez bien.
Parce que quand on a un match de foot France-Allemagne ou un match de rugby France-Angleterre, on a l'impression de revivre la guerre de 100 ans ou la guerre de 40.
C'est ça. Et c'est ça qui rend le sport assez particulier, c'est-à-dire qu'il est porteur de représentation et il s'associe directement à l'histoire politique et militaire nationale. C'est-à-dire que finalement, il est le prolongement d'une histoire, mais finalement qui correspond à notre période. C'est que on accepte le rapport de force, la rivalité, finalement la mémoire douloureuse du rapport qu'on a avec l'autre, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a théoriquement pas de violence. Et c'est ce qu'on voit dans le sport, c'est-à-dire qu'on voit une pacification des rapports qui permet justement de s'affronter sans limite pendant le temps d'un match. Et parfois, il suffit de voir certains France-Angleterre pour se rendre compte qu'on ne se fait vraiment pas de quartier. Pour qu'ensuite, après, et c'est ça tout l'intérêt de la troisième mi-temps, par exemple, on soit capable de se retrouver, d'aller prendre des verres ensemble et de montrer qu'on a dépassé ça. Par contre, pendant tout le temps du match, on s'est rentré dedans gentiment et on a montré qui on était.
Ce qui est intéressant, c'est aussi les sports populaires qui ont disparu. Je pense à la boxe, notamment, extrêmement populaire dans les années 1950, Marcel Cerdan. Aujourd'hui, c'est un sport confidentiel où c'est plus un... enfin, c'est pratiqué, mais ça n'a plus du tout l'aura populaire que ça a pu avoir.
Oui, c'est assez surprenant. D'abord parce que la place de la boxe a été prise par le foot. Ensuite, il y a eu énormément de problèmes parce que c'est extrêmement difficile de lire la boxe. Il y a tellement d'institutions qui proposent des combats. Il y a trop de catégories. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que la boxe littéralement laisse des traces, qu'on a eu une déprise, sauf dans certains quartiers et dans certains territoires où il y a une vraie culture boxe. Mais ça reste un sport qui est frontal. Et aujourd'hui, la boxe, finalement la boxe anglaise, elle a été remplacée par d'autres sports. D'abord le judo, qui a profité énormément de ça. Ensuite, des sports un petit peu plus, accessibles. On a vu par exemple tout ce qui était MMA, tout ce qui était jiu-jitsu, tout ce qui était finalement sport de combat alternatif, peut-être plus accessible pour les jeunes, avec l'impression qu'on se blesse moins. Et qu'on fait moins mal à l'adversaire parce qu'on ne tape pas forcément le visage, on tape avec des protections. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, finalement, de l'essor de ces sports-là, on voit un retour de la boxe traditionnelle. Là, les derniers combats qui ont été organisés en France ont permis ça. On a eu la génération de Chiozo, pour ceux qui connaissent, dans les années 90, où il y avait eu un vrai... On était capable de remplir Bercy pour un combat. On a eu... une sorte de tentative avec la génération Tony Yoka, mais on a vu que ça performait pas forcément. Et là, on commence à voir dans les catégories inférieures des Français monter en parallèle finalement de la montée de ce qu'on appelle l'UFC, avec donc c'est tout ce qui est MMA, c'est-à-dire technique de multiples de combats, avec des gens comme Cyril Gane et autres. Et on est face ici à un retour finalement du sport de combat comme d'abord un spectacle, un divertissement et quelque chose dans lequel on va s'engager. Et étonnamment, on n'a jamais eu autant de clubs de boxe qui s'ouvrent. C'est assez paradoxal, mais c'est finalement une chance. C'est-à-dire qu'on retrouve peut-être, on rentre peut-être à nouveau dans un moment différent avec un retour de la boxe et finalement du noble art où on se respecte, on est capable de se frapper, d'accepter la violence de l'autre, de s'en protéger aussi. On est peut-être finalement au retour, dans une nouvelle période de cette histoire de la boxe et de son rapport à la France.
Le cas du judo est intéressant parce que c'est un sport japonais qui a déferlé en France. C'est un sport pratiqué dans les écoles, qui devient un sport tout à fait classique avec un grand nombre de clubs et puis des déclinaisons dans tous les types de sports asiatiques, taekwondo, autres. Donc c'est devenu un sport populaire.
Alors, ce qui est assez intéressant avec les judos, c'est qu'il y a vraiment une patte française. C'est-à-dire que dans les années 50 et surtout dans les années 60, les Français ont fait ce qu'ils savent le mieux faire, c'est regarder, former et construire des parcours de formation. Ça peut paraître surprenant, mais on a littéralement repris le modèle japonais, on l'a transformé à la sauce française, avec un centralisme qui est très typique. On a imaginé des centres de formation et donc on a fait sortir des élites. Et ça a donné la génération des Douillet jusqu'à Teddy Riner aujourd'hui. On a systématiquement installé des dojos partout. Il y a eu une phase où, dans les années 80, on a construit des dojos, notamment dans les villes nouvelles, parce que finalement, c'était une bonne alternative à la boxe, un bon complément, et puis surtout, c'était associé à des valeurs positives. La Fédération française a joué énormément, et on a eu donc des maires qui se sont engagés. Et je pense, par exemple, en Île-de-France, on a un nombre considérable de judos. Et aujourd'hui, on est une des principales places fortes du judo mondial, alors qu'on n'est pas du tout un pays asiatique. On a aujourd'hui parmi les meilleurs techniciens et parmi les meilleurs spécialistes du judo, il suffit de voir Teddy Riner, mais il y en a d'autres, hein, Clarisse Agamemnon par exemple, ou d'autres. Il y a une vraie patte française, à tel point qu'on est capable de battre les Japonais sur leur sol, qu'on est capable d'avoir des gens qui sont beaucoup plus titrés. C'est parce que le judo n'est plus finalement un sport de combat au sens où les Japonais l'entendaient, mais nous on l'a littéralement transformé en... on a sorti l'art martial et on l'a transformé en sport, avec toute l'école qui est celle de l'école française, de l'éducation physique et sportive, et le judo c'est ça, c'est porteur de valeurs, et nous à côté on l'a transformé en sport, avec ses gammes, ses répétitions, etc.
Il y a un pays qui est très intéressant dans le domaine du sport, c'est l'Inde, parce que c'est un pays immense, et quand on regarde ses performances aux Jeux Olympiques, ils n'ont quasiment rien, au dernier ils ont eu 2 ou 3 médailles, on a l'impression que ça ne les intéresse pas, contrairement à la Chine qui veut vraiment être première, eux c'est le pays absolument pas intéressés par les JO.
Alors, l'Inde, c'est l'exemple typique du pays qui ne respecte pas finalement l'équation géopolitique du sport. C'est-à-dire que normalement, avec sa population, sa nature démocratique, en tout cas en apparence, et finalement son fonctionnement, on devrait avoir des champions. Or, ils ont été finalement capables d'en sortir très très peu. Ça, c'était vrai jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un vrai changement de paradigme. D'abord parce que politiquement, Narendra Modi a pleinement compris ce que le sport pouvait apporter. Et donc, ils sont vraiment en train de mettre les bouchées doubles. Il y a un projet qui se prépare pour l'accueil des Jeux, justement à Mumbai. Ils réfléchissent aussi, finalement, à développer de manière très active un championnat de football. J'avais des étudiants indiens là, il y a 3 semaines en conférence et on a pu discuter justement de ça. Et il y a un vrai changement. Et ce changement, il a commencé quand Narendra Modi a mis en avant le yoga et a fait cette fameuse... Tout le monde a cette image en tête de Narendra Modi posant à côté de milliers de personnes pratiquant le yoga. Il a littéralement utilisé ça pour son image personnelle, pour l'image de l'Inde finalement à l'extérieur. Et aujourd'hui, il a compris que c'était pas suffisant. Et que sa politique ne pourrait finalement s'asseoir, et notamment sa respectabilité internationale, que s'il y avait aussi ce volet sport, notamment en Asie, avec la concurrence chinoise, et a fortiori japonaise. Il fallait aussi cocher cette case de la puissance. Et aujourd'hui, ils sont en train de débloquer de l'argent, des moyens. Alors, ils ont un potentiel, ils ont une énorme capacité de désorganisation, ils ont un mal fou à s'organiser de ce côté-là, mais il y a un vrai effort, et il y a une vraie volonté de faire. Ce qu'ils vont y arriver, ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas inconcevable.
Et puis, dernière question, parce que le temps file, mais il y a un autre sport intéressant, celui de la voile. Là aussi, en France, on a réussi à créer des lieux de mémoire, si je puis dire, entre le Vendée Globe, la Solitaire du Figaro, la course du Rhum. Alors, c'est très particulier comme sport, évidemment. C'est un milieu aquatique particulier, dangereux aussi, il y a de temps en temps des bateaux qui disparaissent, mais c'est aussi une approche, est-ce qu'on peut l'appeler du sport, je ne sais pas, les marins me taperont peut-être sur les doigts, mais en tout cas, une dimension de l'idée de perpétuer un savoir-faire maritime et en le transformant sous une forme de compétition sportive.
Alors c'est drôle parce que c'est un de mes sujets en ce moment. La voile aujourd'hui en France, c'est d'abord l'un des sports mécaniques où la France règne en maître absolu. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs dans le domaine, c'est-à-dire dans la conception des bateaux pour les courses au large. On est les principaux organisateurs de courses au large, on est les seuls. En plus, on est capable de les gagner. On est capable de prototyper des bateaux que les autres ne sont pas capables de faire, à tel point qu'aujourd'hui on voit des intérêts chinois arriver à proximité des chantiers, essayer de capter de plusieurs manières le savoir-faire français. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en plus de ça, il y a un vrai lien entre la voile de compétition, la pratique finalement de la voile nautique et de la voile de loisir, et le transport maritime international. Or, on sait son importance. Le verdissement, aussi la question finalement de la montée des eaux et de la valorisation des territoires. Ces savoir-faire, par exemple, locaux, ils sont uniques. Quand vous avez un port, souvent, il y a toute une micro-industrie autour, il y a tout un ensemble de savoir-faire. Et aujourd'hui, la voile française a énormément à offrir. Et ce qui manque, c'est la conscience politique et la conscience des acteurs. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rassembler toute la filière pour faire prendre conscience d'abord aux politiques, mais surtout à la population française, de l'extraordinaire patrimoine qu'on a, mais surtout de l'incroyable gisement de savoir-faire qu'on est incapable de valoriser, et qui représente véritablement un atout, d'abord pour les territoires, mais aussi pour le rayonnement de la puissance française, qui reste une puissance maritime. Et ça, pour l'instant, ça passe pas, le message passe pas. Donc on essaie de nous travailler dessus, c'est un des sujets sur lesquels moi j'essaie d'avoir un peu de recul, et il y a tout un travail à faire. Les Jeux de 2024 doivent aussi servir ça. Si on va faire du surf à Tahiti, c'est pas pour rien. Si on va à Marseille et qu'on réorganise les plages, c'est pas pour rien. L'idée aussi, ce serait d'aller justement travailler sur ces lieux, par exemple je pense au Havre, hein, là où part la Transat Jacques Vabre, pour vraiment mettre ça en avant. Ça crée de l'emploi, ça attire du touriste, ça permet de créer des lieux de mémoire différents, alternatifs et surtout qui valorisent les territoires, et ça permet de créer d'abord des filières entières sur des industries qui seront clairement les industries de demain.
Bon, voilà, on voit à travers votre de vos propos que le sport est à la fois un jeu, un divertissement, une industrie, un élément un peu guerrier ou national, en tout cas un élément pleinement géopolitique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan. Merci. Le titre de votre ouvrage, donc, qui comme à chaque fois est à retrouver sur le site de Conflit, Géopolitique du sport, une autre explication du monde, qui est paru chez Bréal Studirama, et un atlas du sport qui est apparaître dans les quelques semaines qui viennent. Enfin, selon le moment où vous écoutez l'émission, il sera peut-être paru. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.